Marguerite Bellic qui vient ici, tous les amis du musée de la Normandie et pour Martel, bien sûr, pour tout le monde, depuis 3 ans, mais qui est déjà venu plusieurs fois par ailleurs, qui connaît bien les lieux, va vous faire un exposé sur le passage de la ville de Martel lorsqu'elle était une ville commerçante, c'est-à-dire vers le 11e de sa création, vers le 11e siècle, 11e, 12e siècle. Donc de ce passage et de sa transformation jusqu'à la période où elle devient une sénéchaussée permanente, c'est-à-dire à la fin du 15e siècle. Ce passage a eu des conséquences sur l'architecture, en particulier de la ville, sur sa vie économique, puisque vous savez qu'une sénéchaussée abrite beaucoup, beaucoup de monde, du monde de la justice, des mafiers, des notaires, des clercs, etc. Et donc cela a eu une incidence sur sa vie économique et aussi sur sa vie sociale. Donc je vous présente Marguerite Bellic et elle va maintenant vous exposer sans savoir.
Vous m'entendez bien dans le fond ? Ça va ? Bon. Oui, alors j'avais appelé cet exposé de la boutique, c'est-à-dire de la boutique du marchand, et bien jusqu'à l'office juridique, c'est-à-dire le moment donc, où la ville est passée à l'état de sénéchaussée. Alors dans une première partie, je vais essentiellement me servir de cette carte, et puis dans une deuxième partie qui concernera la sénéchaussée, je me servirai de documents que je vous ferai passer. Et donc, je commence par ce qu'on peut appeler l'histoire de Martel, du temps où c'était une ville de marchands. Vous savez certainement que la première mention de Martel remonte à 1150 à peu près, une époque où c'est une ville qui a déjà des mesures. Une ville qui a des mesures, ça veut dire une ville qui a des foires et des marchés, et qui est donc nécessairement une ville de carrefour. Parce que tout ça, ça se liait, c'était lié au Moyen-Âge. Alors ce carrefour et cette ville récente, qui doit dater des environs de l'an 1000 ou quelque chose comme ça, c'est une ville qui a été fondée par, d'une part, l'abbé de Souillac, le doyen de Souillac, et puis peut-être le vicomte de Turenne. Mais ça n'est pas sûr, il est possible que ce soit le vicomte de Montvalon, Montvalon et Brassac, qui ait possédé Martel. Comme on n'a pas de renseignements antérieurs à 1159, c'est difficile de le dire. Alors vous le savez aussi, c'est une ville de carrefour, puisque c'est le carrefour de la route qui mène d'une part depuis Souillac, qui est le poste de débarquement du sel, et des marchandises aussi qui viennent de très loin, et des marchandises qui peuvent venir donc de l'Angleterre ou même encore plus loin au cours du XVIe siècle. Donc c'est une route qui va de Souillac à Vérac, puis de là vers l'Auvergne ou vers le Limousin, le Haut-Limousin. C'est une première route donc. Et elle coupe à la hauteur de Martel précisément, elle coupe une route nord-sud très importante puisque c'est la route qui va de Paris à Toulouse. Cette route de Paris à Toulouse, elle passe par Brive, qui est le seul pont existant sur la Corrèze depuis l'Antiquité. Ensuite, elle passe dans des bourgs routiers comme l'hôpital Saint-Jean, ou bien en Limousin à Nazareth-Jujal. Et puis, après être passée au-dessus de la vallée du Vignon, elle débarque donc à Martel. Ensuite, la route se dirige soit vers Creys, le port de Creys, qui permettait ensuite de passer de l'autre côté de la Dordogne, soit le port de Gluges. Mais deux routes étaient possibles. Martel est donc ce carrefour des deux routes. La route qui vient du Limousin et de Paris, c'est la route qui permet d'avoir toutes les marchandises venant de l'Île-de-France, venant aussi de plus loin, du nord de la France, de Normandie, etc. C'est essentiellement des draps, ce qu'on appelait les draps de France, et qui avaient une particulière valeur. Alors, dans votre sens, venant de Toulouse, ça peut être des produits comme le pastel, ça peut être des produits comme tous les produits méditerranéens, et tout à fait languedociens, vous voyez. Et puis, dans l'autre sens, dans le sens donc de cette route qui va depuis Souillac, et puis avant, depuis Bordeaux, par bateau, jusqu'à Souillac, puis ensuite vers l'Auvergne et vers le Limousin, eh bien, c'est une route du sel. Le sel qui est devenu très rapidement une marchandise vendue à Martel, dans ce qu'on appelle un entrepôt de sel. Donc le sel, d'une part, et d'autre part également, ben, tout ce qui vient, comme je vous l'ai dit, soit de l'Atlantique d'un côté, soit de l'Auvergne de l'autre. Et venant de l'Auvergne, eh bien, de l'Auvergne et du Haut-Limousin, il y a le bois, il y a le fromage, et il y a toutes sortes de produits. Tout ça pour vous expliquer donc que Martel, au départ, a été une ville de marché et de foire. Et naturellement aussi, cette situation s'est développée lorsque le vicomte de Turenne a probablement acheté Martel, pas très longtemps après 1159, dans ces eaux-là, vous voyez, et que Martel est donc devenue une des villes de la vicomté de Turenne. Comme le vicomte de Turenne ne faisait pas payer d'impôts à ses sujets, ça a été particulièrement intéressant pour Martel et ses environs, mais aussi intéressant, bien sûr, pour les autres villes de la vicomté, comme Saint-Céré, ou encore comme Gagnac, en Quercy, et puis du côté Limousin, Beaulieu, ou Argentat, ou bien sûr Turenne, Collonges, etc. Tout ça fait que la vicomté de Turenne est un endroit très prospère, un endroit qui, au moment de la guerre de Cent Ans, a été beaucoup moins ravagé que les autres régions alentour, et en particulier le causse de Gramat, tout simplement parce que dans la première partie de la guerre, les vicomtes de Turenne étaient des cousins des papes qui, à l'époque, vivaient à Avignon, et les papes protégeaient la vicomté de Turenne. Comme le vicomte Guillaume Roger était le neveu de Clément VI et le frère de Grégoire XI, donc deux papes d'Avignon importants, eh bien, ces deux papes ont bien protégé la vicomté. En revanche, dans la deuxième partie de la guerre, après 1400, de 1400 à 1450, ou enfin 1430, c'est plus difficile. D'abord parce que cette famille des Roger s'est éteinte, donc il n'y a plus une protection possible à Avignon, puis de toute façon, les papes d'Avignon vont partir, ou partent. Mais alors, la famille qui les remplace, et qui est la famille de la Tour d'Auvergne, ou de la Tour d'Auliergue, comme on dit, c'est quand même aussi une famille puissante, et une famille qui a su tout de même assez bien préserver la vicomté. Le contraste, il est important avec le causse de Gramat, parce que pendant toute cette période, la guerre de Cent Ans, le causse de Gramat s'est complètement dépeuplé. Mais les armées y passaient, et avec elles, la peste, la famine, et toutes sortes de problèmes du même genre. C'est donc pour Martel un relatif succès d'avoir été une ville de la vicomté. Et d'ailleurs, les gens qui ont repeuplé le causse de Gramat, toute cette partie qui avait été dépeuplée, viennent la plupart du temps de la vicomté limousine, la partie qui se trouve au nord de Turenne, et en particulier toutes ces paroisses qui sont disposés sur des collines qui sont assez isolées et qui n'ont jamais vu passer d'armée. Vous voyez, ces collines-là, ou ces paroisses-là, c'est par exemple Veynat, Messac, Collonges, et puis si on va encore plus au nord, du côté de Tulle, des endroits qui ont été parfaitement préservés, comme par exemple Cormil. Beaucoup de ces familles, donc, de paysans limousins, qui étaient des familles nombreuses, ont repeuplé le causse de Gramat, et même aussi ont repeuplé la vallée de la Dordogne. Parce que la vallée de la Dordogne, dans la région de Creys, de Montvalon, etc., à partir de Souillac, a été quand même parcourue par des bandes de routiers qui souvent s'installaient à demeure et puis se faisaient nourrir par la population. Autrement dit, c'est quand même des régions qui ont été un petit peu dépeuplées elles aussi. Alors, comment ces marchands de Martel vivent depuis le, disons, le XIIe siècle jusqu'à la guerre de Cent Ans, ou même pendant, eh bien, ce sont des marchands dont certains sont des spécialistes de la vente du sel, comme par exemple une famille qui s'appelle la famille Sacriste, ou une autre qui s'appelle la famille Agulier. Alors un sacriste dans un monastère, c'est un personnage qui s'occupe des objets religieux. Et un Agulier, c'est un personnage qui également dans un monastère s'occupe, lui, de tout ce qui concerne le poisson et la pêche. Ça veut dire que ces bourgeois de Martel sont en réalité des fermiers de l'abbaye de Souillac, des gens qui ont pris à ferme le commerce, et en particulier ce commerce du sel, parce que probablement le doyen de Souillac, il a un intérêt à avoir sur ce commerce du sel. Mais il n'est pas le seul. Alors il y a d'autres bourgeois, comme par exemple la très très importante famille Vidal, Vidal ou Vital, qui possède une tour à Creys, la grosse tour qu'on appelle maintenant la tour de Connac, qui est au bout du promontoire de Creys, et c'est son grenier à sel. Parce qu'il semble que jusqu'en 1250 à peu près, on ne s'est pas contenté d'arrêter les bateaux de rivière à Souillac et de débarquer le sel pour l'envoyer par la route vers Martel, mais que probablement on allait jusqu'à Creys, vous voyez. On débarquait ce sel à Creys et à partir de là, il remontait sur Martel. Donc cette famille Vidal possède cette tour de Creys, et puis elle possède, puisque vous avez la carte, dans la rue Mercière. Alors la rue Mercière, pour les gens qui ne connaissent pas Martel, c'est la rue qui va de la place centrale au marché du sel. Alors ça donne quelque chose comme ça, dans ce coin. Et là, vous avez une très grosse maison qui est complètement isolée de ses voisines, dans la rue Mercière, qui possède à l'extérieur des meurtrières et des systèmes de fortification. Donc c'est en réalité une tour fortifiée, vous voyez, cette maison. Alors elle n'est pas à la porte de la ville, elle n'est pas directement contre la porte de la ville, mais elle est un petit peu à bord. C'est une maison qui maintenant est crépie. Donc on ne peut pas voir son ancien aspect. Mais c'est une maison séparée des deux autres, complètement, et avec des murs de côté très épais.
Qui se trouve à l'entrée de la rue?
Non, c'est là, c'est qui là. Ben, c'est marqué.
C'est la maison Vidal.
La maison Vidal, voilà. Alors, c'est Vidal, c'est probablement le plus riche habitant de Martel. Alors, avec une autre famille dont je vous parlerai, qui est la famille Fabry, ou Fort. Mais pour l'instant, donc, on considère que c'est la famille probablement la plus riche de Martel, puisqu'elle possède des biens à Creys et également des biens du côté de ce qu'on appelle le port de Salles. Alors le port de Salles, c'est au-delà de Carénac, au-dessus de Carénac, et c'est probablement la toute première station où on pouvait débarquer le sel. Mais alors au prix, de aller des bateaux, de pousser les bateaux, tirer les bateaux, vraiment très loin. Mais tout de même, ce nom, port de Salles, nous montre qu'il s'agissait d'un endroit où on débarquait le sel. Et comme par hasard, M. Vidal, eh bien, il a des biens dans ce coin, sur Puy-Brun et sur Carénac. Alors, c'est un second exemple. Je vais vous montrer une autre maison qui est également une maison de sel. Alors, cette fois-ci, vous êtes au bout de la rue droite, au bout de la rue droite du côté de Souillac. Il faut vous imaginer que par le barri de Souillac arrivaient les convois de mulets qui étaient chargés de sel. Ils arrivaient à l'entrée de la rue droite et à une porte qui s'appelait au Moyen-Âge la porte de l'Agulierie, c'est-à-dire la porte de monsieur Agulier. Et monsieur Agulier, eh bien, il habitait dans la grosse tour que vous avez un petit peu après la porte et un petit peu après le petit chemin qui s'appelle maintenant... alors, comment ça peut s'appeler maintenant ? La rue Traversière, voilà. Et c'est cette grosse tour que dans les anciens plans de Martel, on appelle la chapelle des pénitents, mais qui n'est pas du tout la chapelle des pénitents. Elle est de l'autre côté de la rue. Elle, c'est ce qu'on appelle la tour de l'Agulierie, de Monsieur Agulier, et puis plus tard, la tour de la Juliani, parce que c'est un bourgeois appelé Julien qui lui aussi en était propriétaire. Et cette tour est un grenier à sel. C'est-à-dire que c'est là qu'on entreposait le sel. Alors ensuite, ce sel, il était dispatché, si on peut dire, par les bourgeois de Martel, soit en direction de Gramat, et on prenait alors la route Paris-Toulouse, soit en direction de Brive, et les gens de Brive ont beaucoup acheté de sel à Martel, et avaient beaucoup de relations avec Martel, soit enfin vers Vérac, ensuite vers Gagnac, vers l'Auvergne, où également donc, se trouvaient ces marchés de sel. Mais ce n'est pas évidemment la seule marchandise qui se commerce. Et la seconde richesse de Martel, eh bien, c'est l'élevage des bestiaux, d'une part, et des moutons, d'autre part. Et là encore, vous avez des personnages qui sont spécialisés dans ce genre de commerce. Alors, l'exemple d'une famille de bourgeois faisant de l'élevage de moutons, c'est la famille Pauc, P-A-U-C. Alors, les Pauc possèdent d'énormes herbages sur le Causse de Gramat, et en particulier autour de Rocamadour. Ils ont probablement, au départ, été des fermiers de l'abbaye d'Aubazine, qui possédaient des granges autour de Rocamadour, et puis ensuite, petit à petit, de fermiers, ils sont devenus propriétaires. C'est-à-dire que l'abbaye a fini par leur laisser les herbages. Et ces pauvres ont pas seulement des herbages et des troupeaux de moutons sur le Causse de Rocamadour, mais ils ont aussi des troupeaux de bovins dans les prairies autour de Martel, et en particulier dans la vallée de la Dordogne, où il y avait des prairies magnifiques, ainsi que dans la vallée de la Tourmente, et toutes ces prairies appartenaient à des bourgeois de Martel, en tout cas au Moyen-Âge. Et puis, il y avait probablement aussi des métiers du fer, encore que Martel n'ait pas d'eau, et ne soit donc pas un endroit où on puisse établir ni des moulins, ni des véritables, pas des usines, mais enfin, disons des ateliers de forge, mais tout de même, il y a des familles qui, visiblement, au départ, ont été des forgerons. Et puis, il y a les fameuses armoiries de Martel, puisqu'il s'agit de marteaux, et que peut-être c'était tout simplement au départ les armoiries d'une famille. Une famille qui était une famille de forgerons. Alors les plus célèbres, c'est évidemment les Faure, la famille Faure, ou Fabry en occitan, et ça veut dire bien sûr le forgeron. Et c'est une famille qui très rapidement a été extrêmement riche, alors pas seulement à cause de son métier de forgeron, mais probablement aussi parce qu'elle a commencé à acheter elle aussi des biens dans la vallée de la Dordogne, et en particulier dans la région de Mirandol. Elle est propriétaire de presque la moitié de la paroisse de Bluges, voyez, qui est au pied de Martel. Tout ça, c'est donc vraiment des métiers qui rapportent beaucoup d'argent et qui permettent donc de tenir des foires, d'acheter des terres, et puis qui sait un jour de devenir noble. Mais ça demande évidemment, ça demande du temps. Et ça demande, oui, beaucoup de persévérance. Sur cette première partie, donc, je termine en vous donnant un exemple qui date de juste après la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire que nous sommes en 1456, et c'est le moment où ces bourgeois de Martel, qui pendant plusieurs années n'ont pas pu tenir de foire ni tenir des marchés réguliers, recommence à pouvoir faire du commerce. 1456, vous voyez, nous sommes à la toute fin de la guerre de Cent Ans. Alors, voilà ce qui se passe donc à Martel, et là encore, je vais me servir du plan pour vous expliquer comment les marchands de Martel vont donc refaire partir leur foire. Alors, ils ont convoqué, d'abord, ils sont quatre, ces bourgeois de Martel. Il y a M. Jean Lespinasse, il y a M. Jean Bézangard, qui est hôtelier. Alors pour savoir où est l'hôtel de M. Bézangard, il faut aller sur la place du Dedans. Ce qu'on appelait à l'époque la place du Dedans, c'est donc maintenant la place devant la Ribondie. Et cette place n'en était pas une, en réalité, si vous regardez le plan. C'est-à-dire qu'elle était occupée en son centre, à l'endroit où il y a maintenant la halle, elle date de 1800, hein, par deux maisons. Deux maisons accolées l'une à l'autre, Et donc, ce n'est pas une véritable place. En réalité, il y a quatre places qui encadrent ces deux maisons. Eh bien, la maison de M. Bézangard, c'est ce qui, sur le plan, se trouve juste à côté du numéro 6, au sud. Voilà. Et probablement, il a aussi la petite maison entre ces deux grosses maisons, celle qui est au numéro 6 et puis celle qui fait le coin. Et c'était donc M. Bézangard. Si vous voyez un peu la place, c'est la maison sur laquelle il y a une petite sculpture. Voilà, et on voit des grandes arcanes. Voilà, ben ça c'était l'auberge de M. Bézangard, qui devait être un marchand, un hôtelier vraiment très riche. Hein. Un gros hôtelier. Ensuite, il y a M. Étienne Albespi. Albespi, ça veut dire l'aubépin. Et c'est la maison qui est juste à côté. La maison qui est juste à côté, elle a des dessins d'aubépine sur les fenêtres. Et si on va à l'intérieur, elle a aussi une cheminée avec des décorations d'aubépine. C'est ce monsieur de l'aubépin qui avait fait construire cette maison, ou qui la fera construire, parce qu'elle date du 16e siècle. C'est une maison de la Renaissance. Mais c'est lui, avec son nom, qui a voulu se construire cette maison-là. Alors lui, c'est un marchand, et ses descendants, qui s'appelleront les Dunoyers de l'Aubépin, seront, eux, des hommes de justice, des hommes de loi. Ensuite, il y a, pour finir, Gobert Mioul. Alors, Gobert Mioul, il habite la maison qui est à côté, et qui s'appelle, et que j'ai marqué sur le plan « Mater de chauffour ». C'est-à-dire celle qui fait le coin de la place, où il y a maintenant probablement un restaurant ou un café, voyez, et qui fait partie de ce groupe de maisons qui est le groupe numéro 5.
D'accord.
Voyez. Alors c'est la maison ou l'hôtel qui s'appelle Mater de chauffour.
D'accord.
Vous voyez que ces marchands sont tous sur la place du dedans. Et pourtant, lorsqu'on arrive de Souillac, et qu'on débarque devant les remparts de cette première enceinte, on se trouve sur la place du Monturu, c'est-à-dire l'endroit où on accroche Monturu, ça veut dire le montoir, c'est-à-dire l'endroit où il y avait deux bancs, et où on faisait passer entre les deux bancs des mulets pour pouvoir les charger plus commodément. Parce qu'on posait les sacs sur les bancs, et là, le mulet qui arrivait, ou le cheval, se trouver exactement à la hauteur, vous voyez, pour pouvoir accrocher les sacs, sans avoir à les soulever, vous voyez, et puis à les accrocher en poussant ou en gênant. C'est pour ça que ça s'appelle la place du Monturu. Il y a une place du Monturu comme ça à Beaulieu, à Gramat, et pratiquement dans tous les endroits où il y avait des foires. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on mettait les mulets et les chevaux. Et puis ensuite, eh bien, la place du Cerf, c'est ce que vous appelez maintenant la place Gambetta, et c'est là qu'on vendait le sel, sous les remparts de la première enceinte, au débouché en réalité de la route de Martel. Cependant, les marchands, eux, ils habitaient dans la ville. Il était hors de question pour eux d'aller habiter dans les faubourgs extérieurs, surtout en 1456, c'est-à-dire à l'époque où la guerre était à peine terminée, et où toutes les maisons des faubourgs qui avaient existé, qui avaient été très nombreuses, étaient en ruine. Étaient en ruine soit parce que les consuls les avaient détruits exprès pour pas que les ennemis s'y installent, soit parce que les ennemis s'y étant installés, ben, on les avait attaqués et on avait détruit la maison. Vous voyez, en principe, les faubourgs à cette époque-là étaient déserts. Donc ces quatre personnages convoquent un personnage qu'on appelle le roi des merciers. Et le roi des merciers, c'est, si vous voulez, le syndic des marchands, celui qui représente tous les marchands. Alors, ce n'est pas un personnage de Martel, mais ce roi des merciers, il habite à Auzance, c'est-à-dire qu'il est en Haut-Limousin. Et naturellement, le but des marchands de Martel, c'est d'arriver à faire revenir chez eux tous ces marchands étrangers, qui jusque-là faisaient évidemment la fortune des foires, bien sûr, pas seulement eux, naturellement, qui étaient les vendeurs, mais il y avait aussi des marchands étrangers, et il fallait essayer de les faire revenir. Alors ce roi des marchands, il représente, on peut dire, toute la région qui va de Bourges, vous voyez, donc du centre, la région centre, jusqu'au Limousin, jusqu'à la limite de Turenne, quoi. C'est donc vraiment un roi. Alors ce roi des marchands, c'est lui qui, en général, distribue les places aux marchands. Ensuite, les juges, s'il y a eu des problèmes avec les clients. Et puis, organise les foires. Et donc, ce roi des marchands est convoqué par les quatre marchands de Brive, de Martel, pardon, pour organiser, réorganiser les foires. Il s'appelle Jean Baron. Il va faire revenir son lieutenant, lui-même ne s'est pas déplacé, mais il a fait venir son lieutenant, et son lieutenant, il est de Tulle. Et il s'appelle Pierre Marissou. Alors ça, Marissou, c'est un surnom. C'est le surnom de tous les merciers. Et qu'est-ce que c'est qu'un mercier? Eh bien, c'est un marchand qui vend toutes les marchandises qui ne sont, si vous voulez, ni des étoffes, ni des peaux, rien qui soit ni en terre, ni en fer, ni en métal. Autrement dit, c'est lui qui vend les fourrures, tous les bijoux, toutes les épices, tous les produits qui viennent aussi de l'étranger. Autrement dit, c'est de loin les plus riches des marchands. Les marchands merciers. Et ils s'appellent tous Marissou. Ils ont probablement un autre nom, mais c'est vraiment leur nom, le nom qu'on leur donne. Et ce Marissou, donc Pierre Marissou, va organiser avec les marchands de Martel la réinstallation des foires. Alors ils expliquent qu'il y avait deux grandes foires à Martel, alors une le 2 novembre et une autre le lendemain de l'Ascension. Ce sont donc deux foires importantes, et qu'en plus, comme seulement les villes importantes, il y avait deux marchés, un le mercredi et un le samedi. Et il demande donc que tout ça soit rétabli. Et puis ensuite, il place les marchands. Alors, il faut là retrouver la carte et imaginer ces marchands. Alors, disons-nous, sur la place du dedans. Alors, ce qu'ils appellent la place du dedans, c'est donc autour de ces deux maisons du centre. Sur la place du dedans, depuis la maison d'Aymar de Linard jusqu'à la Raymondie, et de la maison consulaire à celle de Gobert-Mioul, nous mettons les merciers. Alors, entre la maison Linard, qui se trouve dans la rue Mercière et qui s'appelle l'hôtel de Linard, où il y a maintenant un agent immobilier, une agence immobilière. Si vous regardez au fond de l'agence, vous verrez la porte de la tour de l'hôtel de Linard. Donc les marchands merciers s'installent depuis cet hôtel jusqu'à la Raymondie, autrement dit tout le long des maisons qui sont au nord de la place, vous voyez, tout le long des maisons au nord de la place. Et puis ils s'installent donc jusqu'à la maison de Gobert-Mioul, dont je viens de vous parler, qui est la maison Mater de Chauffour. Ça veut dire qu'ils occupent deux côtés, à eux tout seuls, de cette place. Ensuite, on met les marchands de drap fin, c'est-à-dire du drap qui n'est pas du drap de pays grossier. Alors le drap fin, ça peut venir de Rodez, ça peut venir du nord de la France, de Normandie, etc. Et ainsi que les robes de France. Les robes de France, c'était des robes fourrées, quelquefois, et qui étaient donc vendus par des marchands un peu spécialisés. Alors ceux-là, ils ont droit à le chemin, si vous voulez, qui mène depuis la porte des frères mineurs. Alors la porte des frères mineurs, maintenant ça s'appellerait la petite impasse qui mène vers les Cordeliers, cette petite impasse qui va vers le boulevard, quoi, pas très loin de la place Gambetta. Vous voyez, à côté du café, voilà. Et théoriquement, donc, ils vont jusqu'à la maison d'Aymar Albespri, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont longer, comme les merciers, toute cette zone qui se trouve à l'ouest de la place du Dedans. Donc ils sont côte à côte avec les merciers. Et ça, c'est vraiment les meilleurs marchands. Alors vous devriez me dire, puisqu'ils sont en réalité sur la place, pourquoi la rue s'appelle rue Mercière? Eh bien, c'est parce que probablement avant la guerre de Cent Ans, ces marchands merciers s'installaient tout le long de la rue Mercière. Mais ça ne veut pas dire que la rue était habitée par des marchands merciers. Hein. ça voulait dire que c'était les jours de foire que les merciers s'installaient donc dans toute cette zone. Ensuite, eh bien, il faut caser les marchands d'étoffes grossières, c'est-à-dire les marchands d'étoffes du pays, tout simplement. Alors, eux, on va tout simplement les installer depuis la maison de Jean Julien, donc je viens de vous dire, c'est la Julianie, autrement dit dans la rue droite, vous voyez. Vous partez presque de la porte du côté de Souillac, là. Donc, vous partez de cette maison de M. Jean Julien et vous allez jusqu'à une maison qui s'appelle la Souillac. La Souillac, c'est-à-dire la maison du doyen de Souillac. Alors, cette Souillac, il faut longer toute la rue, la grande rue, la rue droite, et il faut aller jusqu'à la place de la Bride. Parce que ce qu'on appelle la Souillac, c'est une grosse maison qui se trouve au numéro 12 bis. Vous voyez, vous avez longé toute la rue droite, vous la longez très longtemps, pour arriver jusqu'à la Souillac, qui n'existe plus. Maintenant, il y a un espace vide à cet endroit-là. Et donc, tout le long de ce chemin, avaient le droit de s'installer les marchands. Qui étaient les marchands de draps grossiers. Ensuite, on va passer aux marchands de chaudrons. Aux marchands de chaudrons qu'on appelle des pérolles, aux marchands de bassins et à tout ce qu'on appelle la ferraterie. La ferraterie, c'est tous les objets en fer. Alors, ces gens-là, on les installe avec les peintiers. Alors, les peintiers, c'est les gens qui fabriquent des objets en étain. Donc tous les métaux, on les installe place des assises. Alors ce qu'on appelle la place des assises, c'est devant la Rémondie. Pratiquement là où est maintenant la... juste devant la Rémondie. Vous voyez, mais toujours là, sur la place centrale. Bon. Voilà pour les marchands de chaudron. Ensuite, on passe aux sabotiers et aux marchands de cuir et on les installe. Alors, un petit peu à la suite de ceux qui étaient dans la rue droite, et on les installe à partir de la maison de la Souillac, donc, et on continue vers l'église. Autrement dit, ils sont installés un petit peu plus loin que les autres. C'est déjà considéré comme moins chic. Dans la rue droite, donc, en direction de l'église Saint-Maur. Viennent ensuite les marchands de fromage, de sel, d'huile. Eh bien, on les installe dans une petite place qui se trouve entre la Rémondie et ce qu'on appelle l'hôtel de Maubuisson. Alors, l'hôtel de Maubuisson, c'est dans la rue... comment on appelle ça ? La rue de Gautier. La rue de Senlis. La rue de Senlis. Donc, ils sont installés en face de la Rémondie, côté sud. Vous voyez ?
Là, ce sont les sabotiers.
Oui, les sabotiers. Non, le sel, l'huile et les fromages.
Ah, le sel.
L'huile et les fromages.
C'est le sel.
Il reste à caser les marchands d'écuelles et de marmites grossières en terre, vous voyez, tout ce qui est en terre. Il me reste à caser aussi les marchands de cuir velu, c'est-à-dire le cuir où il y a encore des poils. Eh bien, on les met sur la place de la Bride. La place de la Bride a toujours été une place consacrée au cuir. Naturellement, pendant la guerre de Cent Ans, on l'a appelée place de la Bride parce qu'on y avait installé une sorte de canon, de bombarde. Mais enfin, en temps habituel, c'était une place qui était réservée à tous les marchands de bestiaux et à tout ce qui concerne le cuir. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que la maison qui se trouve sur la place de la Bride, qui s'appelle l'hôtel de Blana, alors il fait le coin de la place et puis de la rue droite, et bien cet hôtel de Blana, donc, est l'hôtel d'un marchand de bestiaux, qui a été anobli dès le XIIIe siècle et que les gens continuaient à appeler méchants marchands de bestiaux au XVe siècle, c'est-à-dire deux siècles après son anoblissement. Et donc ce monsieur de Blana s'est construit le petit château de Blana qui se trouve à Saint-Michel-de-Vanière, qui est sur la colline, et qui est la preuve, vous voyez, de l'enrichissement d'un marchand de bestiaux. Et un marchand de bestiaux, donc, qui au XVe siècle pouvait se construire un petit château. Enfin, il reste des marchands de bovins qu'on va installer au camp Lapi. Le camp Lapi, vous savez que c'est sur la route de Messac. Le camp Lapi, c'est l'espèce de colline où vous mettez maintenant des... un camping.
Ah oui.
Oui, c'est ça, des caravanes.
Voilà.
D'accord, c'est juste à la sortie. Alors évidemment, ça, les marchands de bestiaux, on ne va pas les laisser entrer dans la ville. Bien sûr, on les met au-delà des murs.
C'est la Calliope.
Oui, vous l'appelez la Calliope, mais ça s'appelait le camp Lapi. Et ça veut dire le champ de l'espion, de l'espionnage. L'endroit où on met un espion pour surveiller les alentours. Le camp Lapi. Alors Calliope, évidemment, maintenant, c'est autre chose. Enfin, les chevaux, les ânes, les moutons, les chèvres et les porcs, on les installe sur la place dite place de la fontaine du Saint-Esprit ou de la Rode. Donc c'est la place de la Rode. Et cette fois-ci, la place de la Rode, elle se trouve derrière Saint-Maur, direction évidemment l'Auvergne, direction Bérac. Donc il faut que vous imaginiez que ces nouvelles foires vont donc commencer. Nous sommes en 1456, il y a encore donc à Martel un commerce extrêmement développé, mais vous allez voir que nous commençons à arriver à d'autres occupations pour les enfants de ces marchands de Martel. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi l'hôtel du Roc, que je n'ai pas réussi à repérer, et qui était réservé aux filles publiques. Les filles du public, ça se passait évidemment les jours de foire, et il y en avait un certain nombre. Il me reste aussi à vous dire quels sont les marchands qui ont signé cet acte et qui ont accepté donc de faire du commerce avec Martel. Alors du côté des Limousins, 4 marchands de Messac, 4 de Collonges, 6 de Brive, 8 de Tulle, 12 de Beaulieu, 2 de Cormantes, 1 de Mémac, ben c'est loin, 2 de la Garde d'Anval qui se trouve pas très loin de Tulle. Du côté des Quercinois, évidemment, beaucoup moins de gens. Je vous rappelle que les marchands quercinois ont été décimés par la guerre de Cent Ans. Il n'y a donc que 4 marchands de Rocamadour, 4 de Gramat, aucun de Figeac, aucun, alors qu'il y avait beaucoup de commerce entre Figeac et Martel, plus alors un marchand d'Aurillac, donc un Auvergnat, qui vient certainement pour vendre des chaudrons, et puis un marchand breton. Et alors Dieu sait ce que ce breton pouvait commercer, mais il avait décidé de signer cet acte donc de commerce avec Martel. Et je passe donc à la deuxième partie, c'est-à-dire l'autre chance des Martelais, devenir des gens de justice. Quitter donc leur boutique, pour passer à ce qu'on appelait à l'époque une étude ou un atelier, c'est-à-dire un endroit où on ne travaille plus de ses mains ou sur les routes, mais où on prend une plume et on gratte du papier, et c'est donc beaucoup moins fatigant. Alors, je vais vous distribuer ça, on va se partager, voilà. Bien. Vous avez tous vos feuilles ? Interrogation écrite. Bon, alors, j'arrive donc à la période où Martel devient une ville de sénéchaussée. Alors évidemment, le mot sénéchaussée, ça ne dit pas grand-chose maintenant, puisque ça a complètement disparu. Les justices, au Moyen-Âge, c'était d'abord des justices seigneuriales, c'est-à-dire que chaque seigneur avait sa petite justice. Et puis, il y avait au niveau des provinces ce qu'on appelait des sénéchaux, qui étaient des juges itinérants qui se déplaçaient de ville en ville et qui rendaient la justice dans ce qu'on appelait des assises. qui était évidemment très solennel, et où il ne jugeait que des cas importants. Bien entendu, il ne s'amusait pas à juger tous les cas locaux qui avaient été déjà jugés, soit par ses petits juges seigneuriaux, soit par les consuls, lorsqu'il s'agissait d'une ville. Parce que les consuls avaient en général, donc, des pouvoirs de justice et de police. Donc le sénéchal, c'est un personnage qui au Moyen-Âge est itinérant. Alors en l'occurrence, il couvre à la fois le Quercy et le Périgord, donc il a une grande province, et de temps en temps, il vient à Martel. Alors les bourgeois de Martel, plus tard, c'est-à-dire vers le XVIIe, XVIIIe siècle, ont commencé à prétendre que ce sénéchal était fixe, qu'il habitait à Martel, et que depuis fort longtemps, comme on disait à l'époque, depuis que la mémoire ne sait plus rien, eh bien il y avait un sénéchal à Martel. Alors c'est faux, en réalité ce sénéchal était itinérant, il a commencé à exercer sous Philippe le Bel, donc sous Philippe le Bel, un sénéchal est venu de temps en temps à Martel pour rendre la justice, mais il est aussi allé à Souillac, et il est aussi allé à Gourdon et à Gramat. Autrement dit, passer un petit peu partout. Mais enfin, les bourgeois de Martel, fort contents d'eux, ont prétendu donc que depuis Philippe le Bel, voilà, ils avaient un sénéchal à demeure. En réalité, ce sénéchal à demeure, eh bien, c'est justement au XVe siècle seulement qu'il va exister. C'est en 1470 que le frère de Louis XI, qui s'appelait Charles de France, et qui était duc de Guyenne. Louis XI lui avait donné la Guyenne, c'est-à-dire depuis Bordeaux jusqu'au Quercy et au Limousin. Donc Charles de France a décidé qu'il y aurait un sénéchal fixe à Martel. Deux ans après, il est mort. Louis XI n'a pas entériné ou marqué ce que son frère avait fait. D'ailleurs, il le détestait, son frère. Il l'a peut-être fait empoisonner, on n'en est pas sûr. Bref, il ne s'est pas occupé trop de ce que son frère avait fait. Et plusieurs années après, nous sommes en 1483, Cahors, la ville de Cahors, et la ville de Montauban, demandent au roi qu'on supprime ce sénéchal qui avait été installé à Martel, en même temps qu'on supprime aussi celui qui avait été installé à Lozère et celui qui avait été installé à Gourdon. Donc, vous voyez, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Et à ce moment-là, grand émoi des gens de Martel, qui, à peine ayant reçu ce nouveau corps de justice, sont obligés d'aller prier le roi, quémander pour qu'il rétablisse et il installe définitivement ce sénéchal à Martel. Alors, il semble que c'est ce qu'il a fait. À vrai dire, on n'a pas l'acte de création du sénéchal de Martel. Il a dû le faire une année où il passait par là. Il était allé au pèlerinage de Rocamadour. Vous savez que Louis XI, c'était quelqu'un de très pieux, qui avait des médailles de pèlerinage tout autour de son chapeau et qui ne résistait pas à la tentation de visiter toutes les églises où il y avait des reliques. Alors bien sûr, Rocamadour, il venait de Toulouse. Il est remonté donc par Martel, par Brive, et il a probablement à ce moment-là, on ne sait rien en réalité, rétabli ce sénéchal. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un sénéchal? Eh bien, donc, c'est une cour de justice royale. Et c'est donc assez étrange que Louis XI accepte d'avoir un tribunal royal dans une vicomté de Turenne, qui est en réalité une vicomté indépendante. Et il est assez étrange que le vicomte de Turenne n'ait pas protesté en disant qu'il n'y avait aucune raison de mettre un tribunal royal dans une de ces villes à lui de la vicomté. Bon, alors, à cette époque-là, le vicomte de Turenne s'appelait Agne de la Tour. C'était quelqu'un qui s'était bien entendu avec Louis XI et qui en avait probablement peur. Parce que Louis XI n'est quand même pas un personnage très facile. Protester et aller dire à Louis XI qu'on n'est pas content, c'est peut-être s'exposer à se faire enfermer dans les prisons de Loches, ou même à se faire décapiter. Donc il n'a pas bougé, et cette sénéchaussée s'est établie. Alors on peut dire qu'à partir de ce moment-là, les gens de Martel ne se sont plus sentis. Ils étaient devenus des sujets du roi. Et donc ils n'avaient plus à obéir au vicomte. Ou du moins, s'ils obéissaient au vicomte, c'était avec force discussion et après moult tergiversations. Ils sont donc devenus très orgueilleux. Et ils ont même prétendu être une ville capitale de la vicomté. Alors que la capitale administrative, c'est bien sûr Turenne, et qu'il y a d'autres grandes villes, bien sûr à Saint-Céré, ou à Gagnac, ou à Beaulieu, ou à Argentan, on était furieux. Et on trouvait qu'à Martel, ils exagéraient un peu. Mais enfin, ils avaient quand même, évidemment, une très belle ville, une ville qui avait été enrichie par leurs ancêtres, et ils pouvaient maintenant, donc, tranquillement devenir des membres de cette sénéchaussée. Alors, vous avez un petit tableau qui est donc le tableau de ce qu'on appelle les membres d'une sénéchaussée. C'est un petit peu, si vous voulez, un cours de droit. Un cours de droit, voilà, de l'ancien régime. Alors, un personnel de sénéchaussée, ça se compose d'abord de ce qu'on appelle les magistrats du siège. Le siège, ce sont les juges, les magistrats qui jugent, vous voyez, et qui donc rendent la justice. Alors en tête, il n'y a pas de sénéchal. Le sénéchal, il est pour tout le Quercy. Mais en tête, il y a le lieutenant général du sénéchal. C'est forcément un personnage très important. C'est le chef de la justice. Et les gens de cette époque tenaient beaucoup à ce qu'on appelait la préséance, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on participait aux cérémonies, alors surtout les cérémonies religieuses, mais aussi ça pouvait être d'autres cérémonies, l'entrée par exemple d'un seigneur dans la ville, ou bien l'arrivée du vicomte, qui sait, ou l'arrivée de l'évêque. Et chaque fois, il y avait donc ce qu'on appelait la préséance. Donc le lieutenant général était en tête. D'ailleurs, un des premiers lieutenants généraux, ça se passe vers 1450, vers 1550, pardon, va se mettre en querelle, en conflit avec les consuls, parce que le premier consul voulait passer avant lui. Et oui, et en particulier à l'église. Et donc, ils ont commencé à se crêper de chignon à l'intérieur de l'église, mais c'était des choses courantes à l'époque. Donc, rassurez-vous, et il a réussi à obtenir gain de cause, et lui, le lieutenant général, est donc passé devant. Alors il était ensuite secondé par ce qu'on peut appeler un lieutenant particulier. Alors lui, il s'occupe des affaires civiles, des procès civils. Ensuite, il est aidé par un lieutenant criminel, qui, comme son nom l'indique, s'occupe des affaires criminelles. Et si l'un des deux est absent, eh bien il est remplacé par le lieutenant assesseur. Bon, vous voyez que jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'il y a quatre personnages qui sont les représentants de ce qu'on appelle le siège. Et ils siègent avec des robes rouges, ce qui impressionne énormément les criminels, paraît-il. Parce que voir quelqu'un en robe rouge et chapeau rouge, il paraît que ça flanquait une frousse épouvantable aux criminels. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le parquet, comme maintenant d'ailleurs, ou le ministère public. Alors ça, ce sont les gens donc qui représentent le roi et qui représentent l'État, en somme. Alors il y en a deux, en principe. Il y a le procureur du roi et il y a l'avocat du roi. Alors en principe, ils font à peu près la même chose. Mais enfin, il y en a deux, ça permet peut-être de se remplacer un peu plus souvent. Et puis il y a le greffier en chef, qui ne peut pas être considéré vraiment comme membre du parquet, mais qui joue un rôle considérable, puisque c'est lui qui enregistre tous les procès. Ensuite, alors, il y a ce qu'on appelle le barreau, ou encore les auxiliaires, c'est-à-dire tous les gens qui environnent ces juges, et qui donc ne rendent pas la justice, bien sûr, mais aident les gens qui sont jugés. Alors, parmi eux, il y a les avocats. À Martel, il y a une dizaine d'avocats. Ça veut dire 10 familles, voyez. Ensuite, il y a, alors les avocats, vous connaissez le métier des avocats, ça consiste à faire des mémoires pour les plaignants et ensuite à plaider ou à conseiller les plaignants. Ensuite, il y a des procureurs. Alors, les procureurs, ce sont les ancêtres de ce qu'on appelle maintenant des avoués. Mais ça ressemble, si vous voulez, quand même à un avocat. Sauf qu'eux, ils ne plaident pas. Ils rédigent des actes pour leurs clients et ils les assistent, ils les aident. Alors, ils étaient aussi une dizaine à Martel. 10 avocats, 10 procureurs. Ensuite, il y a des conseillers qui sont des juristes et ils sont 5. Et enfin, il y a des notaires. À Martel, il y en avait de 7 à 10. Vous voyez ? Tout ça pour une ville qui faisait 5000 habitants. Et enfin, eh bien, il y a le personnel subalterne. Alors ça, ça peut se multiplier à l'infini. Il y a une nuée de greffiers qui recopient inlassablement les actes. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Ensuite, il y a des huissiers. Vous savez que les huissiers qui avaient mauvaise réputation d'ailleurs les pauvres allaient faire des saisies chez les gens. Et lorsqu'ils n'avaient pas payé, ils récupéraient leur meuble, comme maintenant. Ils étaient très mal accueillis en général. C'était un métier à risque. Oui, enfin maintenant, on leur fait peut-être pas subir le sort qu'on leur faisait subir à cette époque-là. Hein. Mais enfin bon, voilà. Et puis ensuite, il y a les sergents, qui sont d'ailleurs beaucoup utilisés par les consuls dans les mesures de police, c'est-à-dire lorsqu'ils veulent faire régner l'ordre dans la ville. Et puis, il y a les geôliers. Alors là, les prisons, c'est un sujet qui est beaucoup plus curieux. Sous l'Ancien Régime, en principe, on ne met pas trop les gens en prison. D'abord parce qu'on instruit très vite leur procès. Si c'est un voleur, il est pendu le lendemain. Donc il n'y a pas tellement de frais de prison. Si c'est un meurtrier, n'en parlons pas. Mais de toute façon, si on le garde un certain temps, c'est sa famille qui paye ses frais de prison. C'est-à-dire que c'est la famille qui est censée payer. Si naturellement elle n'est pas capable de le faire, à ce moment-là, c'est le roi qui se charge de l'entretenir, ce prisonnier, et il n'a pas du tout intérêt à le garder longtemps. Autrement dit, il a intérêt à ce que le procès criminel aille très vite. Et c'est ce qui se passe. Je vous dis, c'est vraiment presque instantané, hein, les procès criminels à l'époque. C'est pas comme maintenant, au bout de 3 ans et 4 ans. Hein. C'est au bout d'une semaine. Bon. Ça ressemble un petit peu à la justice anglaise qui, elle aussi, a gardé des traditions, comme par exemple le fait d'instruire très rapidement un procès, vous voyez, d'aller très vite. Quand ils arrêtent quelqu'un en Angleterre, il faut le juger. Il ne faut pas le garder comme ça en détention provisoire comme nous pendant des années. Hein. Il faut le juger. Et si on n'a pas décidé qu'il y avait assez de charges contre lui, il faut le libérer. Et ça, c'est vraiment, c'est l'habeas corpus des Anglais, et c'est un peu le système ancien. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des preuves. On n'emprisonnait jamais pour attendre un procès, vous voyez. Ça ne se faisait pas. Et puis ensuite, je vous dis, les peines, c'était très simple. Hein. Si vous étiez condamné à être pendu, vous étiez pendu tout de suite. Et si vous étiez condamné aux galères, eh ben, vous étiez envoyé tout de suite aux galères. Et il n'y avait pas de prison. S'il y avait une prison, c'était une seule pièce dans une maison quelconque, fermant à clé avec des barreaux aux fenêtres. C'est tout, mais il n'y avait pas de véritable prison. Il faut attendre le 18e siècle pour avoir vraiment des prisons installées. Mais il y a quand même dans la ville un personnage qui s'appelle le geôlier et qui est censé surveiller les prisonniers. À vrai dire, il les surveille très mal. Et à Martel, on a de nombreux exemples de prisonniers qui, dès le lendemain de leur incarcération, n'attendant pas de savoir si on allait les pendre ou pas, ben vous les comprenez, ils sont très pressés. Hein. Ben ils sont partis tout de suite. D'autre part, le geôlier s'est fait peut-être graisser la patte parce que il n'était pas très bien payé. Et comme d'ailleurs tous les gens de justice, il ne recevait pas des gages régulièrement. En réalité, il était payé à la pièce. C'est-à-dire, si un type était arrêté, on payait le temps de garder ce personnage. Mais c'est tout. Donc, ce n'était pas grand-chose. Alors, tous ces juges, tous ces avocats, tous ces greffiers, comment vivent-ils? Eh bien, ils vivent avec l'esprit procédurier des Français. Parce qu'il faut bien reconnaître que nos ancêtres, c'est des gens qui adorent les procès. Alors, petit procès, les jours de foire, parce que le sénéchal se tenait précisément, tenait ses assises précisément le mercredi et le samedi. Les consuls avaient demandé que ce soit des jours de foire que se tiennent les assises. Donc, naturellement, tout le monde venait assister à ce genre de procès. C'était surtout des procès civils, c'est-à-dire des querelles entre voisins, et surtout des histoires de terrain, des histoires d'héritage, et ainsi de suite. Les gens adoraient ça. Et ça, évidemment, c'était des procès longs. C'est pas comme les procès criminels. Ça pouvait durer longtemps. Ils étaient payés à la feuille, à la page, les greffiers, c'est-à-dire qu'ils avaient intérêt à accumuler les papiers, parce que plus on écrivait, mieux ils étaient payés. Et quant aux autres, les juges, les avocats, les autres, ils étaient payés avec ce qu'on appelait les épices. Les épices, c'était le plaignant qui avait perdu la partie, qui les payait. C'est-à-dire qu'on lui faisait payer ce qu'on appelait les dépenses du procès. Et avec ça, eh bien, on payait les juges. C'était donc ruineux, absolument ruineux pour les familles. Mais, comme je vous l'ai dit, elles aimaient ça. On ne pouvait pas faire de politique, on ne pouvait pas discuter de religion. Il fallait bien s'occuper, quand même. C'est vrai. Vous voyez, l'Ancien Régime, c'est quand même un régime où, sur le plan religieux, il n'y a absolument pas matière à discuter. Les seuls qui ont commencé à discuter, et ça a donné les guerres de religion. Et puis, si on se mettait à discuter de politique, on risquait la Bastille. Donc, il fallait bien s'occuper, et l'occupation principale, c'est les procès. Heureusement pour nous, parce que vous pouvez vous dire que 80% des papiers que nous gardons et que nous conservons actuellement sur nos ancêtres, eh bien, c'est des papiers de justice. C'est tout simplement parce que les familles, du plus petit paysan jusqu'à l'avocat, n'ont pas cessé d'essayer de discuter avec leurs voisins pour des histoires de terrain ou des histoires d'héritage. Donc on peut dire que là, ça s'est tout à fait développé. Et ce qui fait que les gens de Martel étaient prospères. Non seulement il y avait toute cette quantité d'hommes de justice qui vivaient assez largement, mais il y avait encore à côté d'eux, bien sûr, tout un monde de domestiques, de gens qui... d'écuyers, enfin de gens qui s'occupaient de leurs chevaux et de leurs voyages, de commerçants qui leur vendaient la nourriture, et ainsi de suite. Autrement dit, Martel était une ville extrêmement prospère. Extrêmement prospère, et comme je vous l'ai dit, extrêmement orgueilleuse de sa prééminence et de sa sénéchaussée royale. Et ce bon temps, cet excellent temps, a duré jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, deux événements vont un petit peu assombrir le tableau. Le premier événement, c'est la vente de la vicomté de Turenne. En 1738, le vicomte de Turenne, qui avait beaucoup de dettes, décide de vendre la vicomté au roi. Et le roi est très content parce que c'était la seule anomalie avec le Béarn qui existait encore en France et qui était considérée comme une sorte de principauté indépendante. Alors, quand on dit indépendant, ça ne veut pas dire qu'on est complètement indépendant du roi. Lui, le vicomte, il est quand même dans l'armée du roi. Il est obligé de venir avec ses troupes dans l'armée royale. Mais en revanche, il ne fait pas payer d'impôts aux gens de la vicomté, il ne fait pas loger de soldats dans la vicomté pendant l'hiver. On rappelle que sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de caserne, donc pendant l'hiver, tous les soldats font les loger, et on les loge chez l'habitant. Alors, à la campagne, on met toute la cavalerie, et dans les villes, on met l'infanterie, et c'est une véritable catastrophe. Dans les régions, toutes les régions de France, autour de la vicomté, qui sont bien sûr du taillable du roi, c'est-à-dire des impôts du roi, eh bien, on loge les soldats. En revanche, dans la vicomté, on n'y loge plus. Donc, vente en 1738. Alors, cette vente de 1738, elle avait eu un autre... avant que la vicomté ait été vendue, il y a eu un autre événement qui s'est passé, et qui est le fait que, précisément, à cause du fait que les soldats n'avaient pas le droit de loger en vicomté, le roi a cherché à avoir des routes qui soient en meilleur état en passant hors de la vicomté. Et donc, les chemins de la vicomté étaient particulièrement mauvais. Ils étaient considérés comme particulièrement mauvais. Et autour de Martel, on se plaignait d'avoir des très mauvais chemins. Ben, il faut choisir. Il faut choisir. Ou on paye des impôts au roi et vous faites des routes, ou bien vous ne les payez pas Et du coup, vous avez les mauvaises ondes. Mais au moins, vous avez la paix. Vous voyez ? Donc, cet autre événement est assez important pour Martel, parce que le roi a décidé de commencer à passer par Souillac, au lieu de passer par Martel. Souillac n'était pas dans la vicomté, donc il pouvait y loger les soldats. Et donc les soldats, au lieu de passer par Martel et ensuite par Gramin, se sont mis à passer par Souillac, c'est-à-dire Noailles, vous voyez, la route nationale 20, Noailles, Souillac, et puis ils ont traversé la rivière à Souillac. C'était d'ailleurs très difficile, c'était beaucoup plus difficile qu'à Creys ou à Bruges. Et ensuite, ils partaient vers Cahors, quoi, directement. Donc Martel a commencé à perdre son rôle de carrefour. Et ça, dès le XVIIe siècle, vous voyez, et même la fin du XVIe siècle. C'est donc, si vous voulez, pour les marchands, une baisse de revenus. Alors ils ne s'en rendent pas compte, les gens de Martel ne s'en rendent pas compte, parce que justement, ils ont cette sénéchaussée, et ils ont l'impression qu'ils sont quand même très riches. Mais bon, leur richesse commerciale, elle a commencé déjà à diminuer. D'autre part, les marchands de Souillac se sont mis à les remplacer. Au lieu que ce soit les marchands de Martel qui font le commerce du sel, ce sont les marchands de Souillac. Et c'est normal, puisque la route est bonne, et que la route qui va par exemple de Souillac à Brive est excellente, et on peut y transporter le sel facilement. Donc, vous voyez, il y a un côté avantage, et puis il y a un côté inconvénient. Vente de la vicomté. Alors la partie Martel est rachetée par le duc de Noailles. Le duc de Noailles voulait absolument remplacer le vicomte de Turenne. C'était son ennemi juré, et depuis deux siècles, il faisait tout ce qu'il pouvait pour dégoûter le vicomte de Turenne et pour l'obliger à vendre. Alors, il rachète Martel, il rachète aussi Saint-Céré, il rachète la majeure partie de la vicomté Limousine, la partie Limousine, et il est donc maintenant le nouveau seigneur de Martel. Mais naturellement aussi, les impôts du roi tombent sur la ville. Cette fois-ci, le duc de Noailles ne peut pas se permettre de demander les mêmes privilèges que le vicomte. C'est pas possible. Donc, on a commencé à voir arriver des soldats à partir de 1738 pour loger. On a commencé aussi à voir les impôts augmenter. Mais quand même, les intendants, l'intendant du Quercy qui était à Cahors et l'intendant de Limoges, se méfiaient. Ils ont dit au roi, il ne faut pas monter les impôts d'un seul coup. Parce que comme les autres paroisses payent à peu près 10 fois plus d'impôts que les gens de la vicomté, ça sera tout de suite la révolution. Donc à partir de 1738, tous les ans, les impôts montaient un petit peu. Et c'est seulement vers 1789 que Martel commence à payer les impôts aux normaux. C'est-à-dire les impôts que payaient les autres personnes. Deuxième gros problème. Le deuxième gros problème, eh bien, c'est en 1764. Je vais mettre les gens à la porte. Alors, cette fois-ci, grosse alarme, on décide de supprimer la sénéchaussée de Martel. Et d'autres sénéchaussées, d'ailleurs. Pourquoi on veut la supprimer? Eh bien, parce qu'il y a un tribunal à Cahors et un autre tribunal à Brive, qui s'appelle les présidiaux, et qui se trouve au-dessus des sénéchaussées, et on veut donc supprimer un échelon. On veut supprimer l'échelon inférieur, celui des sénéchaussées, et se contenter des présidiaux. Et au-dessus des présidiaux, se contenter des parlements. Alors en l'occurrence, ici à Martel, il y avait deux types de présidiaux et deux types de parlement. Si vous habitiez au nord de la Dordogne, c'est-à-dire à Martel, à Luge, etc., vous dépendiez de Brive, c'est-à-dire on était jugé par le présidial de Brive, et ensuite on partait au parlement de Bordeaux. Si en revanche on habitait au sud de la Dordogne, par exemple à Montvalon, eh bien on dépendait du présidial de Cahors, et ensuite on dépendait du Parlement de Toulouse. Ça fait donc une très grosse différence. Une très grosse différence parce qu'en réalité, vous, c'est-à-dire le côté nord de la vicomté quercinoise, à savoir, par exemple, Bétail, Vérac, Martel, tout ça, c'est très fortement lié au Limousin. C'est vraiment lié au Limousin, parce que sans arrêt, les plaignants s'en vont à Brive ou s'en vont à Bordeaux. En revanche, si vous êtes de Montbalon ou si vous êtes d'Avignac, qui sont des paroisses du sud de la Dordogne, vous êtes beaucoup plus liés à Cahors et beaucoup plus liés à Toulouse. En somme, si vous voulez, il y a deux parties dans la vicomté guercinoise, la partie sud et la partie nord, et elles ne se ressemblent pas du tout. D'autre part, Saint-Céré, qui appartient aussi à la vicomté, dépend plutôt de Figeac. Et c'est avec Figeac qu'ils ont des relations de justice. Et tout ça, ça fait que la vicomté part en morceaux et que Martel ne va pas perdre son présidial parce qu'ils ont réussi, au terme de plaidoiries acharnées, à le conserver, mais ils vont le conserver uniquement jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire entre 1764 et 1789. Ça, c'est quand même une période très courte. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué et je vous remercie de votre attention. Allez, quelqu'un courageux.
Je voulais savoir combien comptait d'habitants à Martel.
Allez, on va dire 5 000.
5 000,
voilà. 5 000, donc, autour de ça.
Aujourd'hui, c'est 1 600. Vous voyez le dépeuplement, mais...
Oui, mais enfin, c'est, quand on dit 5 000, c'est avec tous les villages. Alors à l'époque, Loucha ne compte pas. Loucha est une paroisse à part. Donc sans Loucha et sans Murel. Parce que ces deux paroisses ont été réunies à Martel au moment de la Révolution. Après la Révolution, quoi. Et à ce moment-là, la population était un peu plus importante. Ce qui frappe, c'est qu'évidemment, il y a énormément de paysans. Il y a tout de même beaucoup plus naturellement de paysans maintenant. Oui, autre question ?
Qu'il me paraît assez difficile de remonter jusqu'à Creix, à part que sous la Creix, oui madame, bonsoir,
oui.
Sous la Creix, avec le charbon de Seine, me paraît quelque chose de difficile.
Ben, ça paraît difficile, mais vous voyez, il y a eu une taxe qui était payée pour le débarquement du sel à Creix jusqu'en 1250. Alors ça veut dire qu'à ce moment-là, la Dordogne avait été plus ou moins probablement pas canalisée, parce que c'est impossible de canaliser la Dordogne, mais disons un chenal à peu près le long du chemin de halage, un chenal pour tirer les bateaux. Je vous dis, probablement au temps des Mérovingiens, alors là on monte vraiment, ça devait aller jusqu'au port de Sand, jusqu'à Carénac. Les bateaux devaient remonter jusqu'à Carénac. Alors elle avait peut-être aussi un autre régime, la Dordogne. Elle avait peut-être pas, parce que maintenant il y a les barrages. De toute façon, ça, ils lâchent l'eau comme ils veulent. Mais avant les barrages, il y a eu une période, chaque fois qu'on déforestait, et on a déforesté toute la région, par exemple en 1900, enfin au 19e siècle, ou au 16e siècle, on a énormément déforesté. À ce moment-là, il y avait des inondations et il y avait des périodes de sécheresse. Mais en temps habituel, quand il y avait une végétation normale, il est possible que la Dordogne ait été assez régulière. En tout cas, on remontait, ça c'est sûr. On remontait, c'est sûr.
Est-ce que vous avez
l'idée
de la valeur du sel?
Ah ben, la valeur du sel, c'était essentiel. On ne pouvait pas s'en passer, d'abord pour les troupeaux de moutons et les troupeaux de bovins. Et ça, alors là, à tous les coups, bien sûr, il fallait leur en donner, sinon ils dépérissent, surtout les moutons. Et d'autre part, ben, il fallait saler tous les poissons, jamais on mangeait du poisson frais. Et d'autre part, il fallait saler aussi le porc, toute la viande de porc. Donc ça coûtait très cher, hein, ça coûtait vraiment très cher le Seine. Et c'était pour les marchands une très très bonne affaire.
Et est-ce qu'on peut établir une hiérarchie des prix dans les marchandises qui étaient vendues? Le sel est en premier.
Bon, alors ça, ça dé... oui, le sel est très cher. Ensuite, les céréales, ça peut monter ou descendre, alors d'une telle manière, suivant que la récolte est bonne ou mauvaise, que c'est pas calculable. C'est pareil pour le vin. Le vin, ça dépend entièrement de la bonne récolte ou de la mauvaise récolte. Et à ce moment-là, les prix peuvent chuter ou au contraire grimper. Qu'est-ce qui coûtait cher? Ben, c'était les étoffes, surtout les étoffes venues d'ailleurs. Bien sûr, les tissus locaux, ça coûtait moins cher. Voilà. Et puis, bien sûr, aussi le cuivre, les objets en cuivre, les bijoux, les fourrures, etc. Tout ça, ça valait très cher.
Les épices, non?
Les épices, bien sûr, mais aussi, on s'en servait pas trop. C'était vraiment pour les riches. Ah oui, c'est pour les riches.
Et alors, je me suis, tout à l'heure, quand vous avez dit qu'ils ne payaient pas d'impôts au vicomte de Durel, les habitants, je me suis dit pourquoi le vicomte ne faisait-il pas payer d'impôts?
Alors, les impôts, il y en avait. Chaque année, le vicomte demandait ce qu'on appelait le don ordinaire et puis le don extraordinaire. Et petit à petit, il a monté ses prix. Mais le but de l'opération, c'était de faire des procès aux agents du roi, parce que chaque fois qu'il y avait la mort d'un vicomte et l'arrivée d'un nouveau vicomte, le roi faisait semblant d'oublier qu'il y avait eu des privilèges qui avaient été donnés en 1200, quelque chose comme ça, et il demandait au vicomte de prouver ces privilèges. Alors il fallait qu'il paye un tas de juristes, qu'il les envoie à Paris, au Parlement, pour un procès qui pouvait durer assez longtemps. Il fallait le payer, et au départ, c'est pour ça qu'il avait demandé ce don. C'est pour conserver aux gens de la vicomté leurs privilèges. Bon, et puis comme il a monté pas mal ses prix, les vicomtins ont fini par trouver que c'était trop cher. Mais c'était beaucoup, beaucoup moins cher que les impôts du roi. Et donc, ils auraient mieux fait de ne pas aller et de ne pas respecter. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup.